Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui poursuit sa semaine sur le djihadisme en s'intéressant ce soir à Boko Haram en compagnie de Ahmad Yacoub Dabio. Quand on parle de djihadisme en France, on a tendance à généraliser à partir de l'expérience française, en oubliant que le phénomène est à la fois global et local. C'est pourquoi je vous propose de vous emmener ce soir visiter un autre foyer de terrorisme islamiste dont nous entendons, à vrai dire, de plus en plus souvent parler. Il s'agit de la zone sahélienne et sub-sahélienne, d'une zone extrêmement vaste comprise entre le Mali, le Nigeria, le Tchad, le Burkina Faso. Et nous allons parler plus particulièrement de Boko Haram. Et nous aurons pour guide un homme qui se consacre à désembrigader les personnes ayant appartenu à cette organisation terroriste, Ahmad Yacoub. Ahmad Yacoub, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser? Je rappelle, mes auditeurs, vous êtes tchadien. Vous avez travaillé pour le médiateur de la République au Tchad et vous avez créé une association dont vous êtes aujourd'hui le président, qui s'intitule le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, qui a son siège à N'Djamena. Expliquez-nous, Ahmad Yacoub, comment est-ce que vous en êtes arrivé là?
Je vous remercie, Antoine Garapon. Je vais essayer de rectifier seulement. Je suis pas chargé de désengager. Oui. Mais je travaille sur les désengagés.
J'ai parlé de désembrigadement. Oui.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'essaye de trouver une solution, surtout par rapport à l'insertion socio-professionnelle de ces gens qui ont quitté volontairement Boko Haram et qui ont rendu leurs armes aux forces de défense et de sécurité. Voilà en bref.
C'est ça. Donc, ils sortent de Boko Haram, on verra tout à l'heure dans quelles conditions, et à ce moment-là, ils se rendent aux forces militaires tchadiennes.
Oui. Ils se rendent aux forces militaires tchadiennes.
Et qu'est-ce que fait l'armée?
C'est pas en masse, c'est d'une manière individuelle ou par deux, trois, parce que de l'autre côté, Boko Haram n'autorise pas la fuite de ses combattants. Et quand il réussit à arrêter quelqu'un qui tente de s'enfuir, la sentence est immédiate.
Il le tue.
Il le tue ou au pire, il le tue, ouais.
Oui, c'est ça. Et alors, ce qui est intéressant dans l'expérience que vous menez, c'est beaucoup plus qu'une expérience, c'est un véritable travail, c'est que vous le faites au Tchad, près du lac Tchad, donc à l'ouest de N'Djamena, mais il y en a qui fuient dans d'autres pays, au Nigeria, au Cameroun essentiellement. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? On n'en entend pas tellement parler, Ahmad Yacoub.
Oui, c'est vrai, le Tchad est le premier pays qui autorise, parce qu'il faut comprendre qu'il y a quatre pays autour du bassin du lac Tchad, en l'occurrence le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Et tous ces pays sont affectés par le fléau de Boko Haram. Le Tchad est le premier pays à avoir engagé une armée pour combattre Boko Haram en dehors de ses territoires. Parce que quand le Tchad est intervenu, Boko Haram occupait des localités au Nigeria, comme par exemple Bama, Gambaru, et menaçait aussi le Cameroun. Il faisait des incursions. Et le Tchad a compris très tôt qu'il faut intervenir, sinon le danger va affecter son territoire. Et c'est comme ça que le Tchad a envoyé une forte armée pour combattre Boko Haram sur le sol nigérien.
Et alors, donc, ils récupèrent des gens, des désengagés, après des combats, on viendra dans le détail tout à l'heure. Et qu'est-ce que font les forces tchadiennes?
Par rapport à ces désengagés?
Oui, c'est ça.
Non, c'est-à-dire, les désengagés, une fois qu'ils se rendent aux autorités tchadiennes, militaires, sécuritaires, administratives, Il y a un travail d'enquête qu'il faut faire. Après ce travail d'enquête, parce qu'il faut être sûr qu'il est vraiment désengagé, il n'est pas infiltré. Il n'a pas l'intention de commettre des attentats.
C'est le risque, bien sûr.
Et ça, c'est un travail collégial. C'est l'armée, l'administration, la sécurité qui font ce travail. Et une fois fini, il implique le chef de canton. Et le chef de canton, à son rôle, implique le chef de village. Parce qu'il y a le chef de canton, le chef de village et le chef de quartier.
Donc c'est un quadrillage de façon à pouvoir dire cet individu appartient bien à telle,
appartient à telle famille, dans telle localité.
C'est ça.
Il est reconnu, on fait venir sa famille et on le remet à la disposition de sa famille pour qu'il intègre la famille.
C'est ça. Et à ce moment-là, vous intervenez et vous vous proposez à ces familles pour pouvoir aider à la réinsertion de ces combattants de Boko Haram.
Ce n'est pas exactement ça. Nous, ce n'est pas un centre qui intervient pour aider, mais c'est un centre d'études.
C'est ça.
Qui étudie la possibilité d'établir un méga projet pour insérer tous ces mondes, les 2200 repentis, que nous avons recensé pour la première fois fin mars, début avril 2018. Et on est revenu avec une cartographie, des statistiques, pour pouvoir procéder à une insertion socio-professionnelle.
C'est ça. Et donc,
parce que le manque de procéder à une insertion socio-professionnelle, ça décourage ces désengagés de rester dans le lac et ça les pousse à immigrer ou bien à réadhérer, si ce n'est pas Boko Haram, il y a d'autres groupes
de djihadistes. Alors on va prendre les choses depuis le début parce que tout cela vous donne Ahmad Yacoub, vous êtes sociologue, vous avez une thèse de sociologie que vous avez passée à l'université du Mans et donc ça vous permet, vous travaillez avec des géographes dans votre association, dans votre centre,
géographe, anthropologue,
etc. Donc ça vous permet d'avoir une connaissance très très fine, très précise de Boko Haram. Et on va essayer de suivre le fil depuis le début. Comment est-ce que c'est... D'abord, combien de personnes Boko Haram... combien vous estimez aujourd'hui les troupes de Boko Haram dans la région?
Selon le travail qu'on a fait, je l'ai dit à haute voix que notre centre est le premier à faire ce travail.
C'est ça.
Il y a environ 14 520 combattants de Boko Haram en 2016.
Oui.
Et en 2018, il y a 12 000.
Donc ça baisse.
Ça baisse pourquoi? Ça baisse grâce à la pression militaire et aussi les gens ont compris que Boko Haram n'était pas vraiment la promesse sur terre,
c'est ça,
au paradis,
oui,
ce qu'ils attendaient.
C'est ça.
C'est une secte violente et qui n'a rien à voir avec les principes de l'islam. Et c'est ça la différence, Antoine, avec le désengagé occidentaux de Daesh.
Oui, oui.
Ceux qui viennent de Boko Haram reconnaissent, ils font des aveux qu'ils ont regrettés et ils s'en prennent verbalement à ces gens. Alors que moi, je n'ai pas vu ceux qui reviennent de Daesh tenir de tels propos.
Ah ben c'est tout le problème, ça c'est effectivement, il y a beaucoup de déçus, mais il n'y a pas beaucoup peut-être de repentis, c'est-à-dire c'est beaucoup de gens qui reviennent en disant Daesh est une imposture, mais on continue de croire à un État islamique. Mais alors, comment est-ce qu'ils sont recrutés, Ahmad Yacoub? Comment est-ce que Boko Haram s'y prend pour recruter des gens?
Boko Haram a une technicité de recrutement. Ça s'applique sur plusieurs volets. D'abord, il y a ce qu'on appelle la terreur. Qu'est-ce qu'il fait, Boko Haram? Ils viennent attaquer un matin, surtout à l'heure de prière, un village. Ils encerclent le village. Et parce qu'ils trouvent les hommes...
Tous à la mosquée.
Dans la mosquée.
Oui.
Personne ne peut s'échapper. Ils prennent au hasard 2-3 personnes pour égorger et ils demandent l'avis des autres. Qu'en pensez-vous? La vie est automatique. Ils prêtent allégeance à Boko Haram.
Tout le village.
Tous les villages.
Oui.
Et c'est pourquoi on trouve le nombre de femmes qui est très élevé. 42,7 le nombre de femmes.
Ah oui, il y a beaucoup de femmes chez
Boko
Haram.
Oui, beaucoup de femmes.
Oui.
Parce qu'on prend un village.
Donc les enfants aussi.
Il y a des enfants. Bien sûr, il y a des enfants. Je vous dis que dans les 2200 répentis, nous n'avons pas pris en compte les enfants qui sont plus de 550 enfants. Et il y a ceux qui sont nés dans les maquis. Il y a ceux qui sont nés dans
c'est
les
ça,
maquis.
C'est ça. C'est ça. Et alors, ça, c'est la première technique, c'est la terreur, c'est
la
collectif.
Terreur, puis, il y a ce qu'eux, ils appellent l'allocation piégée. Ça veut dire quoi? Ils visent un père de famille qui a des jeunes. Ça, c'est une aubaine pour eux. Mmh. Ils viennent lui donner un crédit, comme un crédit bancaire. Et c'est pourquoi on l'appelle, nous, c'est une allocation piégée. Mmh. Et dans le village, il y a des indicateurs de Boko Haram qui surveillent ce monsieur. Et ces indicateurs informent Boko Haram que ce monsieur a commencé par investir. Boko Haram revient et demande...
Donc il dépense cet argent, ce monsieur dépense cet argent.
Voilà, parce que bien sûr. C'est destiné à un investissement. Mmh. Soit il fait l'agriculture, soit il fait la pêche, soit il
achète un bateau, etc.
Soit il élève de... Ouais,
c'est ça.
Et Boko Haram revient pour demander l'argent. Il n'a pas l'argent, il doit céder un ou deux jeunes pour qu'il aille combattre.
Il donne ses fils à
bien
Boko
sûr,
Haram.
Bien sûr, ça c'est une technique. Une autre technique, c'est la promesse. Sur terre et au paradis.
Alors ça, c'est le prêche religieux, ça.
Oui, c'est le prêche. Et en dehors des prêches, c'est l'information qui est véhiculée au sein de la jeunesse dans le village et dans les villes. Et les jeunes croient, ils viennent, parce qu'il y a une promesse sur terre. Ils doivent avoir de l'argent. Et une promesse au paradis. Ce sont 10 femmes... Etc, etc.
C'est ça, c'est une promesse qui n'est pas une promesse d'enrichissement matériel. Il y a aussi une promesse d'enrichissement matériel.
Ah si
bien sûr,
ah,
oui, si, les deux sont liés.
Ah si, Boko Haram, l'économie annuelle de Boko Haram est de 30 millions de dollars.
30 donc, millions de donc, dollars. Donc ils ont de l'argent aussi
ah,
à
oui,
distribuer.
30 millions de dollars par an, ça c'est une étude qui a été faite. Et c'est Boko Haram qui finance quelque part le groupuscule terroristes dans le Sahel.
C'est ça. Oui. Alors, donc, la personne rejoint...
Il y a aussi y a la technique de l'enlèvement.
Alors ça, c'est l'enlèvement...
La technique, la chasse de jeunes.
Alors, comment ça s'opère, le chasse de jeunes?
Il y a des marchés, ce qu'on appelle les marchés hebdomadaires. Oui. Dans le village, il y a des marchés hebdomadaires. Boko Haram tente des embuscades dans les axes et il prend les jeunes pour les embrigader.
Coupage de route.
Oui.
Alors, ce qui est intéressant, si on compare avec ce qui se passe chez nous, Arman Yacoub, c'est qu'on n'entend pas beaucoup une démarche, comment dirais-je, religieuse derrière. Oui, bien sûr, il y a la promesse du paradis, mais c'est une technique de recrutement beaucoup plus violente, beaucoup plus terrorisante, et il n'y a pas cette démarche volontaire que l'on constate chez nous en Occident.
De toutes les manières, il y a une similitude, c'est vrai, mais il y a une très grande différence.
Oui.
Entre ce qui se passe au niveau du recrutement de Boko Haram et ce qui se passe au niveau du recrutement des Occidentaux chez Daesh.
Oui.
Au niveau de Boko Haram, nous n'avons pas constaté l'aspect religieux.
Ah non?
Non. Il y a, je suis poussé parce que je n'ai rien à faire, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de métier, je n'ai pas d'argent, c'est la pauvreté, c'est l'éducation. L'éducation dans cette zone... est de 0,22%.
Oui, personne ne va à l'école.
Oui, sur les 2200, il y a seulement 50 qui ont eu la chance d'être inscrits à l'école primaire. Et il y a 5 seulement qui savent lire et écrire.
Sur les
2200.
Que vous avez contactés,
voilà.
Qui sont sortis de Boko Haram.
Il y a 5 seulement qui savent lire et écrire. Ils ont le niveau de... le brevet.
Mais c'est ça, d'ailleurs, ça correspond bien au terme de Boko Haram, Arman Yacoub. Parce que Boko Haram, justement, ça vient de là.
Non. Boko Haram, c'est un aspect nigérian.
Ah oui.
Ça n'a rien à voir avec le Tchad.
Ah, d'accord.
Oui, mais ça, ça s'est élargi jusqu'au pays
donc
frontalier.
Donc, c'est une constellation.
Si vous voulez, c'était créé en 2002 à Maïdougri. C'était un prédicateur, un chef qui s'appelait Mamadou Youssoufou qui a créé cette secte. Et il prêchait pacifiquement, c'est vrai, oralement, violemment, mais pacifiquement, jusqu'en 2009, où il y a une manifestation à Maïdougri qui a été réprimée, violemment réprimée par les forces de l'ordre. Et on a assassiné leur leader, Mamadou Youssoufou. Ce que je vais vous dire, au Tchad, il y avait une partie importante des musulmans sympathisants de Boko Haram quand ils ont vu en boucle l'image de Mohamed Youssouf assassiné.
De l'assassinat.
Mais Boko Haram n'a pas compris. Et Boko Haram est venu commettre deux attentats meurtriers en plein Ramadan et en plein centre du marché à N'Djamena. Mm-hmm. Et les gens étaient surpris. Des musulmans qui ont été tués, des enfants, des femmes. Et c'est à partir de 2015, juin 2015, que la partie minoritaire tchadienne qui soutenait Boko Haram a commencé par changer d'avis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, depuis 2015, il n'y a jamais eu un attentat dans une ville importante du Tchad.
Alors, qu'est-ce qu'on leur fait faire à Boko Haram? Qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont pris, une fois que le village est pris de force, terrorisé, pris en otage, Ahmad Yacoub, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Parce que là aussi, vous avez des informations intéressantes.
Oui, Antoine Garapon, je vous dis que Boko Haram a une stratégie.
Oui.
Quand Boko Haram occupe un village, soit s'il est sûr que ce village est sous son contrôle et il n'y a pas un risque d'une contre-offensive militaire, il peut installer ses villageois sur leur sol, mais en les chargeant d'être informateurs, de travailler dans l'agriculture, dans la pêche,
de nourrir,
dans l'élevage,
c'est ça.
Pour payer les taxes et les impôts à Boko Haram. Au cas où ils ne sont pas certains que ce territoire ne sera pas attaqué, ils prennent tous ces villages avec eux pour les amener dans un lieu sûr.
C'est ça. Et là, ils forment au combat, il y a des batailles, il y a des affrontements, il y a des accrochages avec...
Généralement,
oui.
Les femmes sont interdites de combattre. Parce que c'est l'honneur. Il y avait une femme qui est venue demander au prophète Mohammed qu'elle veut aller au combat. Mm. Le prophète a dit non. Elle a dit, laissez-moi aller au combat, pas pour combattre, mais seulement pour soigner les blessés et donner aux soldats de l'eau. Le prophète a refusé. Parce que qu'est-ce que les autres vont dire de nous? Que nous avons utilisé des femmes au combat. Et c'est pourquoi, dans le contexte arabo-musulman, envoyer une femme, je parle du contexte classique, envoyer une femme au combat, c'est pas...
Alors ça veut dire que sur tous les effectifs de Boko Haram, qui sont composés quasiment à moitié de femmes, il n'y a que la moitié de combattants, en réalité.
Oui, il y a l'homme,
c'est ça.
Le combattant, automatiquement, oui. Il est combattant, l'homme.
Et alors qu'est-ce que font les femmes?
Les femmes, elles font des ménages, des informations... garder les butins et surtout elles sont aussi abusées sexuellement parce qu'il y a ce qu'on appelle mut'at al-mujahid. Mut'at al-mujahid en français,
le repos du guerrier,
le plaisir,
c'est ça,
du guerrier,
c'est ça,
c'est que vous appelez l'abus sexuel,
c'est ça,
l'esclave sexuel,
oui.
Voilà. Et quand le combattant revient de la guerre, compte tenu de l'effort qu'il a déployé, il doit
bien
avoir
sûr.
Le plaisir.
Oui. Alors, il y a aussi des femmes qui sont utilisées comme des bombes humaines pour faire des attentats suicides. Vous en avez, il y en a une que vous avez retrouvée qui, heureusement, n'est pas morte et qui a refusé, d'ailleurs, de faire exploser sa bombe. Donc, ça veut dire qu'elles sont aussi utilisées comme bombes humaines.
Généralement, ce sont des jeunes filles. Généralement. Des 8 à 14 à 16.
Toutes petites filles, même.
Oui, oui, on les utilise, comme le cas de Halima Adama.
Mm-hmm. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter le cas de Halima Adama?
Halima Adama, malheureusement, elle donne plusieurs récits, plusieurs versions.
Ah.
Il y a la télévision Arte qui est partie l'interroger. Il y a le centre qui est parti l'interroger. Il y a une télévision italienne qui est partie l'interroger. Mais elle se bloque sur un détail. Comment vous avez rejoint Boko Haram et pourquoi vous avez décidé de vous exploser?
Elle,
il y a plusieurs versions.
Elle ne le dit pas.
Non, elle le dit. Elle le dit, mais on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un coup, elle dit que j'ai décidé de ne pas m'exploser. Un coup, elle dit non, je faisais la prière quand l'armée qui avance, parce qu'elles étaient trois, les deux ont explosé et moi, l'engin était dans mon sac. Je n'ai pas eu le temps d'exploser. Mais ces deux jambes ont été broyées. Ces deux jambes. Elle a eu des jambes artificielles grâce à une ONG.
Et votre conviction à vous, Ahmad Yacoub ?
Vous savez, dans l'interrogatoire, ce n'est pas un interrogatoire, mais c'est une enquête de trois pages par personne. De trois pages par personne, on trouve tout.
Ah oui.
C'est difficile de faire parler la personne, et surtout faire des aveux, c'est très difficile.
Surtout alors sur les abus sexuels, parce que c'est une culture où c'est tabou, le sexe, c'est tabou.
C'est un tabou au Tchad, on en parle difficilement.
Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Ahmad Yacoub qui nous parle de Boko Haram et qui a choisi de nous faire entendre une chanson soudanaise.
Oui, Antoine Garapon, c'est l'Afrique vit un moment, j'ai dit historique, parce qu'on a un pays voisin qui vient de renverser un dictateur de 30 ans. Un renversement populaire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a sur la place publique plus d'un million de Soudanais qui revendiquent une transition civile. Et en tant que défenseur des droits de l'homme et surtout travaillant dans la prévention de l'extrémisme, parce que vous savez, l'extrémisme, il y a des facteurs aussi qui sont la dictature, la répression, la longévité dans le pouvoir.
La captation des richesses.
Voilà. La corruption, les détournements. On a trouvé dans la résidence du président Omar el-Béchir 128 millions de dollars. 128 millions de dollars. Et quand on a reversé cette somme dans la banque centrale, il y a la monnaie soudanaise qui a augmenté d'importance de 5 à 10%.
Et ça veut dire que ce qui se passe au Soudan, Ahmad Yacoub, ça intéresse beaucoup les Tchadiens.
Bien sûr, parce que le Soudan, non seulement c'est un pays limitrophe, vous savez, l'est du Tchad vit aussi grâce au Soudan. Toutes les denrées alimentaires proviennent du Soudan. Après le renversement d'El-Béchir et surtout la fermeture de la frontière, il y a eu une hausse des prix des denrées alimentaires à l'est du Tchad.
Et ça veut dire que il y a aussi la volonté, ça peut donner des idées au peuple tchadien politiquement, ce qui se passe en Soudan. Donc finalement, quand on pense à l'exemple du Tchad, mais c'est un exemple parmi d'autres, vous avez la Libye au nord qui est avec les troubles qu'on connaît, le Soudan à l'est qui est aussi en pleine mutation, en pleine transformation, en pleine révolution, la Centrafrique au sud, et puis toute cette zone qui est infestée de milices islamistes, Boko Haram, et qui ne sont pas unis d'ailleurs, parce que c'est une des causes, écrivez-vous Ahmad Yacoub, une des causes de la fuite d'un certain nombre de membres de ce groupe islamiste est due aux querelles internes. Il y a des querelles internes terribles à l'intérieur de Boko Haram.
Oui, ils sont trois groupes. Un groupe dirigé par Bakar Kaka, qui se trouve vers le Nigeria, vers le Niger. Un deuxième groupe qui est dirigé par le leader charismatique Aboubakar Shekau. Et le deuxième, c'est le fils même du leader Mamoun Youssouf qui a été assassiné, Al-Bournaoui. Donc ils sont trois groupes et qui s'entretuent entre eux. Mais si je viens de vous dire qu'il y a eu une baisse sur l'effectivité de Boko Haram en 2018 par rapport à 2016. En 2019, il y a eu une augmentation.
Ah oui,
ah oui, il y a eu une augmentation, d'où la recrudescence des attaques qu'on est en train de suivre. Il ne se passe pas un seul jour où Boko Haram ne fait pas des attaques.
Ça. Parce que
pourquoi nous... oui. Parce que Daesh en Syrie, en Irak a été défait. Et une partie importante, surtout des daïchistes africains, qui se sont retrouvés, qui se retrouvent maintenant avec Boko Haram. Et il faut comprendre aussi que de notre côté, je parle de pays africains limitrophes du bassin du lac Tchad, on n'a pas fait un travail de prévention. Ça, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on commence par payer. Parce que on a beaucoup compté sur l'option militaire. Or, l'option militaire à elle seule ne peut pas résoudre un problème aussi dangereux comme celui de Boko Haram.
Oui, oui. D'ailleurs, nulle part, hein. Pas plus au Tchad, à mon avis, que dans n'importe quel autre pays. C'est un peu la difficulté qu'on rencontre en France, c'est comment est-ce qu'on va trouver des solutions au désembrigadement d'un certain nombre de jeunes, y compris de jeunes français de souche, d'ailleurs. C'est un problème récurrent.
Mais alors, parce que, Antoine, oui. le problème, ce n'est pas seulement le désengagement. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces désengagés? Les problèmes se posent sérieusement.
Bien sûr.
Ce n'est pas
sûr.
Seulement les désengagements.
Bien sûr.
Des jeunes qui reviennent et ils sont dépourvus de tout parce qu'ils ont tout perdu, croyant qu'ils partent au paradis, croyant qu'il y a une promesse sur terre. Ils reviennent déçus et ils continuent à être déçus.
Ils continuent à être déçus, et alors il y a un certain nombre d'entre eux qui sont guettés par le voyage, par l'émigration, c'est-à-dire partir et tenter leur chance ailleurs, en Europe ou ailleurs.
Bien sûr. Nous, on a appris en novembre 2018 qu'il y a une centaine qui s'est dirigée vers la Libye, vers l'émigration. Dieu seul sait, est-ce que certains ne seront pas un jour ou l'autre en Occident, en France en Belgique, en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait un bon travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces gens, on doit les insérer et on doit aussi les ficher, prendre les empreintes digitales pour être suivis. Parce que ce sont des gens, bien sûr, désengagés, on doit les respecter, on doit les insérer, mais rien ne nous empêche qu'on les suive.
Bien sûr, parce qu'ils sont potentiellement dangereux. J'ai bien potentiellement, parce que ce que vous confirmez dans vos écrits, Ahmad Yacoub, c'est une réelle distance à l'égard de Boko Haram. C'est-à-dire qu'ils partent, et ça vous donne pas l'impression, vous qui regardez toute cette population qui sort de Boko Haram, vous n'avez pas l'impression que ce sont des personnes infiltrées. C'est pas votre sentiment.
Non. On n'a pas constaté que ces gens sont infiltrés.
En revanche, ce sont des gens qui sont accoutumés à la violence. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont pratiqué la violence pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Oui. Ils le disent d'ailleurs.
Ah oui.
Ils le disent. Il y a une femme qui disait son mari est décédé, mais on lui a obligé de se marier. C'est elle qui disait un enfant.
Ah oui.
Et elle n'accuse pas l'enfant qui l'a marié, mais elle dit elle n'a jamais vu des enfants aussi violents. Et ça veut dire beaucoup de choses.
Et oui, et on a un peu le même problème avec Daesh d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que le niveau de violence de ces enfants qui sont arrachés à leur culture traditionnelle, qui sont embrigadés et qui côtoient très rapidement la violence extrême, hein, celle de la terrorisation de villages, d'attaques, c'est aussi très très problématique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Armand Yacoub, sur quels sont vos constats concernant les enfants de Boko Haram, les enfants qui sortent et que vous récupérez et que vous essayez de comprendre?
Il y a sur 2200 désengagés, il y a plus de 520 à 550 enfants.
Donc c'est énorme.
Sur 150 enfants, oui. Il y a 7 seulement qui sont inscrits, donc 3 filles qui sont inscrites à l'école. C'est un problème. Ce n'est pas un problème de maintenant, mais un problème dans l'avenir. La question que je me pose, où sont les partenaires? Qu'est-ce qu'ils font? On a beaucoup de partenaires, des centaines et des centaines d'ONG qui défilent dans le lac Tchad. Et je dirais même que c'est devenu un lieu touristique.
Ah oui, du tourisme, oui, d'ONG.
On vient voir les désengagés de Boko Haram, on vient voir Halima Adama. Elle disait, Halima Adama, vous venez tout le temps me voir, m'interroger, mais vous ne faites rien pour moi. Alors que, on peut, au lieu d'organiser des conférences, des ateliers, des colloques, en dépensant des sommes colossales, on peut quand même faire quelque chose pour cette zone. Parce qu'il y a un risque d'assèchement du lac Tchad.
Mais bien sûr, alors on va parler du lac Tchad, mais peut-être, Armand Yacoub, c'est parce que précisément, il n'y a pas cette prise de conscience chez nous, en Occident, en Europe, il n'y a pas cette prise de conscience que c'est aussi notre problème, Boko Haram. C'est aussi notre problème qu'aujourd'hui, nous sommes dans une zone, et surtout cette zone arabo-sahélienne et européenne, ce qui dans le fond, à l'échelle du monde, forme une unité, une certaine unité. On n'a pas compris que ce qui se passe quelque part aura des répercussions ailleurs et que le travail de désengagement des gens qui sortent de Boko Haram, indépendamment de la question sécuritaire de la lutte contre Boko Haram, ce désengagement est absolument essentiel pour notre propre sécurité.
Vous savez, j'étais dans l'opposition avant et je vivais en France. J'ai parlé avec un diplomate américain de la situation qui prévaut au Tchad. Il n'a même pas pris la peine de m'écouter. Il était très distrait. Il m'a dit, l'Afrique est loin des États-Unis d'Amérique. En 2001, il m'a appelé pour me dire, vous avez vu, monsieur Yacoub, ce qui s'est passé en Amérique? Je lui ai dit, oui, mais désolé. Les États-Unis d'Amérique sont loin d'Afrique. Voilà, vous savez.
C'est ça.
Alors que les États-Unis d'Amérique ne sont pas loin d'Afrique. L'Afrique n'est pas loin de l'Europe. Nous sommes appelés à combattre ensemble ces fléaux. Je vous dis, Boko Haram, quand je vois l'Occident dire qu'ils viennent pour nous aider pour combattre Boko Haram, moi je dis non. Nous, on aide l'Occident. Parce que Boko Haram, c'est le bouc. Ils disent, eux, ils combattent l'éducation occidentale.
Le terme même de Boko Haram, c'est bouc.
Voilà.
Haram.
Donc,
c'est-à-dire le livre interdit. En fait.
Nous, on est en train de défendre la civilisation occidentale. Ce n'est pas l'Occident qui nous défend, mais nous, on est en train de défendre l'Occident, c'est qu'il faut comprendre.
C'est ça.
Oui. Si un jour on dit, bon, Boko Haram, écoutez, nous, on est d'accord avec vous. Combattez le Boko Haram. On est d'accord avec vous. Je crois que nous serons en paix et ils déplaceront leur combat.
Oui,
à ce moment que l'Occident comprendra. Problème qui concerne tout le monde.
Oui, le problème, c'est que l'Occident, il a se demandé, mais que faire? Pour l'instant, ce que vous dénoncez, Armand Yacoub, c'est le nombre de colloques, d'ONG, de déversements d'argent un peu inutile, on pourrait dire, d'argent inutile, c'est-à-dire ça sert à faire des rapports, à plus ou moins documentés d'ailleurs, avec des sources plus ou moins fiables. Vous avez remarqué d'ailleurs que votre association qui concentre les sources les plus fiables sur le phénomène de Boko Haram soulève beaucoup d'appétit d'ailleurs, Armand Yacoub.
Je vous dis en toute sincérité, quand on a élaboré pour la première fois ce projet, dès le début jusqu'à aujourd'hui, il y a des partenaires qui sont en train d'étudier. Ils n'ont pas fini d'étudier. Nous avons envoyé des chercheurs, on a dit, bon, nous, le plan B, on n'attend pas les partenaires. On a envoyé des chercheurs, ils ont fait le travail, ils sont revenus. Ça fait une année, et plus une année, et les partenaires sont en train toujours d'étudier.
C'est ça. Alors, Ahmad Yacoub, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez parlé de l'assèchement du lac Tchad, c'est-à-dire qu'il y a un problème majeur de la région qui est le mal-développement, le sous-développement, et puis un problème écologique majeur qui est l'assèchement.
Surtout, Antoine Garapon, l'absence de l'administration de l'État, c'est ça qui a fait défaut et qui a encouragé la présence des terroristes. L'État était totalement absent. Quand l'État est absent, il y a le hors-la-loi, il y a le sous-développement, il y a tout.
Et pas le respect de l'ordre public. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que la première chose, c'est que l'État occupe la plénitude de sa souveraineté sur tout le territoire, qu'il soit présent sur tout le territoire.
Il faut une administration. Je ne parle pas des forces de défense et de sécurité. Je parle d'une administration. Il faut une administration civile dans tous les territoires du lac Tchad. C'est ce que maintenant les Africains, les quatre pays, sont en train de faire, mais c'est un peu trop tard.
C'est ça.
Oui.
Oui.
Et dès que Boko Haram baisse d'intensité, les pays africains baissent la vigilance.
Et du coup, ça ne les intéresse plus et la présence de l'État, en même temps, est moins grande.
Voilà.
Donc, une présence de l'État pour soigner, éduquer la population, construire des routes, faire son rôle qui revient à l'État. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un problème économique, écologique majeur dans cette région-là, Ahmad Yacoub.
Oui, cette zone est occupée par environ 40 millions d'habitants. Mmh. Ce n'est pas seulement les ressortissants de quatre pays africains, mais il y a des Maliens, des Sénégalais, des Gambiens, des Guinéens, qui viennent pour des commerces, pour la pêche, parce que c'est une zone très riche en pêche, pour l'agriculture. Ces gens, en 2050, selon des rapports, deviendront plus de 50 millions. Et avec le rétrécissement du lac Tchad et les risques d'assèchement, ces gens, où est-ce qu'ils vont aller? L'immigration? L'extrémisme? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
50 millions de personnes.
50 millions. Qu'est-ce que ces gens vont faire? Où est-ce qu'ils vont aller? Les chercheurs se posent des questions. Et hier, le secrétaire général de l'ONU a appelé à revoir la stratégie de l'assèchement du lac Tchad. Parce qu'il y a un budget qui a été fait lors de la conférence d'Abuja en février 2019, je crois. Il y a un budget qui a été étudié où les Italiens sont pleinement impliqués.
Alors, ça veut dire, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre que la question de Boko Haram, c'est une question qui est liée au développement. Le développement est lié à l'écologie. C'est tout à fait illustratif de nos difficultés aujourd'hui où tout est lié. Ça veut dire que si on ne traite pas économiquement, écologiquement, encore une fois, l'équilibre économique de cette zone qui concerne 50 millions de personnes, il n'y a pas de raison que Boko Haram ne puisse pas vendre ses rêves meurtriers.
Oui, le travail de contre-assèchement, c'est un travail de longue haleine.
En quoi ça consiste, en deux mots, le contre-assèchement?
Le contre-assèchement, je ne suis pas spécialiste de ce genre de
technique,
d'aspect,
oui,
de conception, mais il y a le drainage de l'eau du Congo.
C'est-à-dire qu'il serait possible...
Il draine l'eau,
c'est ça,
jusqu'au lac Tchad.
Donc il serait possible...
Et ça coûte énormément
d'argent.
Et il faut aussi convaincre le Congo, il faut convaincre la Centrafrique...
De donner un peu de son eau.
D'accepter. Voilà.
C'est ça. Donc, une dimension économique qui est évidente, une dimension de développement. Et là, il faut se rapprocher des personnes, ce que vous faites, Armand Yacoub. C'est-à-dire que chaque cas est singulier. On parle de 50 millions et en même temps, les 2200 de Boko Haram que vous accueillez ou que vous suivez, que vous répertoriez, ils ont besoin de projets concrets pour eux.
Oui. J'ajoute à ce que je viens de dire. Il est vrai que les événements, colloques, etc., c'est important, mais il faut injecter de l'argent là où il faut.
Oui, c'est surtout, ça. Et pas dans les colloques.
Non, pas dans les colloques. L'Union européenne, l'ONU, l'USAID, ils déboursent des sommes colossales. Mais il y a des intermédiaires. Il y a les intermédiaires qui utilisent cette somme. Ça n'arrive pas vraiment
que des miettes. Et ça n'arrive pas aux destinataires.
Ça n'arrive que des miettes. Moi, je vous dis, on a organisé un atelier financé par un partenaire, je n'ai pas envie de citer.
Mais, d'accord.
Et ça nous a coûté 6 millions. Et les partenaires, leurs frais d'émission, ils sont arrivés 4. Les frais d'émission, les frais de déplacement, les billets, la restauration. Imaginez, ça coûte combien ça ?
C'est ça.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a un mal développement, mais que là aussi, on voit à quel point nos attitudes là sont enchevêtrées, parce que il faudrait changer aussi la perspective de l'aide au développement, la rationaliser, mener en même temps un travail contre la corruption, qui est terrible, parce qu'il y a pas que l'évaporation du lac Tchad, il y a l'évaporation de l'argent qui arrive pour le lac Tchad et qui part dans les poches des uns et des autres.
C'est ce que nous appelons l'extrémisme intelligent.
Oui.
Parce que c'est plus dangereux que l'extrémisme violent. Parce que l'extrémisme intelligent agit sous la couverture de la loi. Et ça irrigue l'extrémisme violent. Il y a la loi.
Bien sûr, le leader
Mamadou Issoufou, il a été assassiné par les forces de l'ordre. Normalement, on doit l'arrêter et le juger. On l'a exécuté croyant que le problème est fini.
Mais
la Libye. Sarkozy a défait la Libye, ça, nous, on appelle l'extrémisme intelligent.
C'est ça. Alors, un dernier mot, Armand Yacoub, sur Boko Haram, un mot d'espoir peut-être sur ce qu'il faudrait faire. D'abord, une prise de conscience, un soutien, un rapprochement des consciences des peuples entre l'Europe et l'Afrique.
Je viens de dire que je suis sûr de ce que je dis, que l'Union européenne fait de son mieux. L'Union européenne finance beaucoup. L'armée française, elle est présente. L'armée française, elle est présente en Afrique. Elle soutient.
Alors, qu'est-ce qui manque ?
Ce qui manque, c'est revoir la stratégie de financement. Ne pas prendre les structures africaines à des enfants et les mettre sous tutelle. Ça ne marche pas, ça. On va toujours tourner à rond.
Il faut faire confiance aux acteurs, aux acteurs décidés.
Il faut faire confiance aux acteurs locaux et faire en sorte que l'argent arrive directement au lac Tchad.
Directement.
Pas par plusieurs démarcheurs.
Merci beaucoup, Armand Yacoub.
Merci, Antoine Garapon, et bonsoir.
Matière à penser, Armand Yacoub, Jean-Michel Bernaud, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garbon. Et je vous donne rendez-vous demain soir pour terminer cette semaine avec Marc Sejman, qui est un psychiatre qui a travaillé sur le terrorisme. À demain.